L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Leonid Vitalievich Golovko, professeur de droit à l'Université d'État de Moscou et directeur du Centre de procédure pénale et de justice. Avec lui, nous allons analyser l'accélération du processus de transformation des organisations internationales débuté à la chute de l'Union soviétique et qui s'est accéléré depuis le début des années 2000, remettant en cause la nature internationale et multilatérale de ces organes issus de la Seconde Guerre mondiale, qui conduit à en faire des organes de gouvernance globale régis par des règles imposées par l'Occident collectif au reste du monde. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La défaite de l'Allemagne nazie, à laquelle l'Union soviétique a contribué de manière décisive avec le soutien des alliés occidentaux, a permis de jeter les bases de l'ordre international d'après-guerre. Sa base juridique, qui était la Charte des Nations Unies et l'Organisation mondiale elle-même, incarnant le véritable multilatéralisme, a acquis un rôle central de coordination dans la politique mondiale. Aujourd'hui, le système centré sur l'ONU, ainsi que sur toutes les organisations qui lui sont affiliées, traverse une crise profonde. La cause est dans le fait que des membres occidentaux de l'organisation ont tenté de remplacer le droit international et la Charte des Nations Unies par une sorte d'ordre fondé sur des règles. Ces règles qui n'ont pas fait l'objet de négociations internationales transparentes. Il est évident qu'elles sont inventées et appliquées dans le but de contrecarrer les processus naturels de formation et de renforcement de nouveaux pôles de développement indépendants qui sont la manifestation objective du multilatéralisme. C'est dans le même esprit que l'Occident, avec les États-Unis en tête, utilise les institutions internationales pour contenir les nouveaux centres mondiaux de développement avec des mesures unilatérales illégitimes. Il s'agit notamment de couper l'accès à la technologie moderne et aux services financiers, d'être expulsé des chaînes d'approvisionnement, de confisquer des biens, de détruire les infrastructures essentielles des concurrents et de manipuler les règles et procédures universellement convenues. Ainsi, au nom de quoi la minorité occidentale se donne le droit de parler au nom de toute l'humanité ? N'est-il pas plus judicieux de respecter tous les membres de la communauté internationale sans exception ? En imposant un ordre fondé sur des règles, les Occidentaux ne rejettent-ils pas avec arrogance le principe de la Charte des Nations Unies, à savoir l'égalité souveraine des États ? Tous les développements sur ces questions fondamentales, dans quelques instants, avec mon invité, Leonid Vitalievich Golovko, professeur de droit à l'Université d'État de Moscou, directeur du Centre de procédure pénale et de justice. Leonid Vitalievich, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Bonjour.
Alors, tout le monde se rappelle de la déclaration fière du chef de la diplomatie européenne dans la lignée de ce que je viens de dire dans mon introduction, M. Joseph Borrell, selon laquelle, je cite, « L'Europe est un jardin d'Éden et le reste du monde une jungle ». C'est un peu le discours des Romains qui séparait Rome, la lumière, du monde barbare. Alors, on pourrait aussi rappeler la déclaration conjointe OTAN-Union européenne du 10 janvier 2023 affirmant que l'Occident uni, donc je cite, « L'Occident uni utilisera tous les outils économiques, financiers, politiques et militaires dont disposent l'OTAN et l'Union européenne pour garantir les intérêts de notre milliard, c'est-à-dire le milliard donc, d'individus appartenant à ces pays ». Alors, Ma question, je crois que c'est la question de tous les gens qui regardent l'évolution de ce monde, en particulier en Afrique, ces déclarations ne sont-elles pas en réalité la quintessence du complexe d'exclusivité, de supériorité, d'un ascendant de supériorité que l'Occident s'accorde et veut normaliser dans les relations internationales et les organisations internationales?
Tout à fait, je suis absolument d'accord avec vous. Cette arrogance est absolument insupportable. Et je dois signaler aussi cette hypocrisie qu'on voit dans le discours occidental. Depuis des décennies, on nous parle de la tolérance, du politiquement correct, de la discrimination positive, etc., etc. Donc des concepts qui doivent quasiment dépasser le colonialisme historique de l'Occident. Mais avec la phrase de Borrell, on voit que tout ce discours est absolument hypocrite. Rien à voir avec la réalité. L'arrogance existe, l'arrogance fait partie du discours occidental, de la pensée occidentale par rapport à notre monde, malheureusement fait partie de l'esprit européen, je parle des élites européennes, pas de tous les peuples européens évidemment.
Absolument.
Et ces élites qui sont arrogantes et hypocrites, ils dominent actuellement l'Occident, et de temps en temps sortent ce genre de phrases absolument insupportables et absolument inadéquates par rapport à leur discours des dernières décennies sur la tolérance ou le politiquement correct. Ça, on voit très clairement.
Alors, mais comment ce genre de... alors que cette déclaration, disons, elle n'est que la partie apparente de l'iceberg. C'est déclaré dans le contexte de l'opération spéciale russe en Ukraine, mais quand même, cette mentalité et cette façon de voir le monde et de mener les affaires du monde étaient dont déjà les tuyaux dans tous les circuits mondiaux, y compris les institutions internationales. Comment ils ont réussi à faire ça au détriment de la majorité de l'humanité pendant au moins 30 ans, disons depuis la chute de l'Union soviétique?
Tout à fait. Après la Deuxième Guerre mondiale, le système international, l'ONU et d'autres, se basaient sur, en quelque sorte, sur le système de deux grandes puissances qui pouvaient pas dominer parce qu'il y avait une autre puissance, les États-Unis et l'Union soviétique. Et en quelque sorte, le monde profitait de cette rivalité des États-Unis et de l'Union soviétique, ce qui a pu permettre aux certains États de devenir réellement indépendants, ne pas s'aligner sur le système socialiste et capitaliste et développer leurs États, leurs systèmes, etc., etc. Avec la chute de l'Union soviétique, les institutions existaient déjà, notamment l'ONU. Et en quelques... Mais cette dualité a disparu. Donc, les États-Unis sont restés seuls avec ses alliés ou ses satellites plutôt occidentaux. Et à ce moment-là, ils ont essayé de récupérer ces institutions en autorisant leur bureaucratie, en autorisant leurs concepts, en transformant ces institutions en quelque sorte en organismes de la gouvernance globale. Et à ce moment-là, on a vu cette évolution très dangereuse pour le monde lorsque ce ne sont plus des plateformes pour les discussions, pour satisfaire les intérêts de toutes les nations, tous les pays. Ce sont des instruments de la domination. Et de temps en temps, ces phrases qu'on entend de la part de Borrell, c'est un diplomate quand même, est choquant.
C'est ce qui est le plus choquant,
justement. Le plus choquant, absolument.
On aurait pu accepter ça de quelqu'un d'autre.
Oui, c'est pas un général, c'est vraiment un diplomate. Donc, et à ce moment-là, cela nous démontre comme ces petits détails cachés en quelque sorte de la réalité. C'est-à-dire que le masque tombe, et on voit le vrai visage de cette globalisation qui est absolument unilatérale, qui absolument veut dominer le monde entier, veut pas permettre aux nations de se développer de façon souveraine, mais veut dominer et parfois agresse, parfois attaque, très souvent, lorsque, aux yeux de ces élites globalistes, mondialistes, il n'y a pas suffisamment d'obéissance de la part d'autres nations, de la part d'autres pays. Voilà, en quelque sorte, sur ce plan, les institutions internationales ne sont plus les institutions internationales, sont les institutions de la gouvernance globale.
Et je crois que, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, il y a maintenant, c'est que même les institutions affiliées à l'ONU, qui normalement doivent être des plateformes de discussion entre des États souverains sur les problèmes que tentent de résoudre ces institutions. Prenons l'exemple de l'OMS. Alors, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Il y a même une collusion, une sorte d'inceste entre l'aspect étatique international de l'organisation et avec le privé. Maintenant, il y a même des partenariats publics-privés. C'est, par exemple, l'OMS, il est très caractérisé par rapport à ça, où on voit quelqu'un comme Bill Gates devenir l'ordonnateur de l'OMS. Voilà. Comme si... Est-ce qu'on peut penser que Bill Gates peut donner des ordres qui iront à l'encontre des intérêts?
Pourquoi pas? Bien sûr, on ne peut rien exclure actuellement. Et vous avez absolument raison. Depuis la fin de la guerre froide, depuis la chute de l'Union soviétique, il n'y a plus aucune différence entre l'ONU, par exemple, en tant que l'organisation universelle, et d'autres organisations qui ont été conçues dans le cadre du monde occidental, par exemple l'OTAN, je ne sais pas, le CDE, etc., etc.
Le GIEC.
Voilà. Et donc, dans ce sens, lorsqu'on voit les structures de l'ONU, ils sont parfois plus radicales que certains d'autres organismes. Vous avez évoqué l'OMS, on peut parler aussi du Comité des droits de l'homme, qui est absolument inobjectif et complètement partial. Donc, on voit cette transformation des organismes internationaux. Et j'ai travaillé beaucoup avec l'ONU, avec d'autres organismes, et je peux vous dire qu'au niveau de l'ambiance, au niveau de ce côté de la gouvernance globale, l'ONU n'a gardé rien de son objectivité de l'époque.
Son multilatéralisme.
Voilà, c'est plus une organisation universelle qui doit défendre toutes les nations, qui doit faire développer toutes les nations. C'est une structure complètement idéologique, c'est une structure dominée par cette idéologie globaliste et tout ce qui découle de cette idéologie globaliste sur tous les aspects, le climat, le gender, etc., etc., et qui développe ça en utilisant en quelque sorte les instruments qui ont été créés à une autre époque.
D'accord.
Ce qui crée la situation encore plus dangereuse. On peut dire comme
moi,
ça aussi.
Je me rappelle une fois à la lecture d'un article, je me rappelle pas exactement qui, mais qui donnait l'exemple par exemple de Robert McNamara, qui était le secrétaire d'État à la défense de Kennedy, je me rappelle bien. Et il explique que Robert McNamara a été responsable de la mort de beaucoup plus de gens quand il est devenu gouverneur de la Banque mondiale, parce qu'à cause des politiques anti-humaines qu'il a imposées, notamment en Afrique et dans d'autres pays pauvres de l'Asie du Sud-Est, que lorsqu'il était secrétaire d'État à la Défense.
Tout à fait, parce qu'il avait des pouvoirs, d'une part, les pouvoirs beaucoup plus larges, et d'autre part, il a utilisé en quelque sorte cette réputation de l'institution. Il a manipulé en quelque sorte.
Qui est devenu, effectivement, un moyen de domination.
Voilà, donc la réputation de l'ONU, actuellement, il faut le dire très franchement, est supérieure par rapport à la réalité, parce que en quelque sorte, la réputation est héréditaire. Ça ne correspond pas à la réalité, au monde actuel, à la situation actuelle, à cause de cette transformation, de cette attaque, de cette prise d'otage de l'ONU qui a été faite par l'Occident et volontairement fait.
D'accord. Bien. Alors maintenant, passons à la deuxième question. Et donc, en plus de cet aspect-là, nous voyons que l'Occident collectif est en train d'entreprendre, de remodeler pour lui-même les processus du multilatéralisme, y compris au niveau régional. Donc, il n'y a pas si longtemps, les États-Unis ont appelé, par exemple, à la renaissance de la doctrine Monroe pour l'Amérique latine. Et elle exige de des pays de l'Amérique latine de ne pas avoir des relations avec la Russie et la République populaire de Chine. Et puis, il y a des forces importantes des États-Unis et de leurs alliés ont été également déployées pour saper le multilatéralisme dans la région Asie-Pacifique, où une architecture ouverte, donc réussie, de coopération économique et de sécurité a été construite pour l'association des pays de l'Asie du Sud-Est pendant des décennies. Et ce format a permis le dialogue de développer des approches consensuelles qui conviendraient à la fois aux pays membres, mais aussi à d'autres pays comme la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon, l'Australie, la République de Corée, garantissant un véritable multilatéralisme inclusif. Et visiblement, Washington a mis le cap sur l'effondrement et la destruction de cette architecture établie. Alors, comment, donc, en plus de la prise d'otages, donc, on est carrément en train de tirer une balle dans la tête à l'ONU. Comment analysez-vous ces évolutions et quel est, à votre avis, sur la volonté des pays, des différentes régions, de renforcer leur propre structure multilatérale dans l'Amérique latine et l'Afrique pour défendre leurs intérêts légitimes et s'imposer comme des piliers du monde multipolaire?
Vous savez, je pense qu'il faut analyser les situations cas par cas. C'est-à-dire, ça dépend beaucoup des pays concrets. Mm-hmm. Est-ce qu'il existe cette volonté? Par exemple, si on prend le Japon ou la Corée du Sud, je pense pas. Pour des raisons historiques, sont des pays, il faut le dire très franchement, qui ont été occupés, et cette occupation n'a jamais arrêté complètement. Il y a les bases militaires américaines au Japon, et le Japon, fera jamais quelque chose qui contredit les intérêts américains pour des raisons politiques. Pour faire autre chose, le Japon doit se débarrasser de l'occupation américaine, par exemple. Donc, je ne crois pas à la souveraineté du Japon ou, par exemple, ou le même cas, c'est la Corée du Sud, pour essayer de créer quelque chose. Mais il y a d'autres pays, vous avez bien évoqué, en Afrique, en Amérique latine, et on voit qu'ils, en quelque sorte, se battent pour leur souveraineté. Et ils restaurent leur souveraineté. On était témoin, il n'y a pas si longtemps, de cette histoire de la tentative de la révolution en couleur au Venezuela. Venezuela, heureusement, a pu résister. Imaginons le gouvernement de Maduro. Évidemment, c'était une marionnette qui ne pouvait pas amener son pays à la souveraineté, à l'indépendance, à la création des structures militaires latérale, etc. Mais le Venezuela a résisté. Donc, et il y a de plus en plus de pays qui peuvent, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, etc.
En Afrique, le dernier exemple, c'est le plus frappant, c'est celui du Mali.
Exactement.
Qui tient tête à tout le monde, c'est courageusement.
Voilà, le Mali, c'est un excellent exemple. Et donc, ces pays peuvent essayer de structurer ces pôles, créer ces pôles pour leurs intérêts. Ces pôles indépendants, avec la coopération peut-être au niveau régional, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, pour réellement créer en quelque sorte une nouvelle diplomatie, la diplomatie des pays souverains, des pays des pays qui veulent pas dominer d'autres pays, etc. Donc, à mon avis, il y a un certain nombre de pays, mais malheureusement, le monde est divisé, en quelque sorte, en simplifiant des choses, entre les pays qui se battent pour leur souveraineté, qui veulent garder cette souveraineté, même parfois des relativement petits pays, et les pays qui, pour des raisons historiques ou politiques, à cause des relations en couleur ou à cause d'autres événements historiques, ont perdu actuellement leur souveraineté. Il n'y a aucun espoir qu'ils peuvent revenir sur la scène internationale pour l'instant.
En tout cas, à court terme.
À court terme, bien sûr, on parle à court terme. Malheureusement, c'est le cas des pays de l'Europe, de l'Union européenne, ça aussi on voit. Les masques sont tombés le dernier temps, et cet espoir que l'Allemagne, ou voire la France, sont des pays pays absolument souverain, a disparu. Donc, dans toute la région du monde entier, on retrouve les pays qui gardent leur souveraineté, et chapeau à ces pays, bien sûr, et on voit des pays, malheureusement, qui sont dominés, qui sont transformés en quelque sorte en satellites pro-américains, pro-occidentaux, etc., etc.
Bien. Alors, passons à une autre chose de cet aspect-là de la mondialisation, mais sécuritaire. Alors, lors du sommet de l'an dernier à Madrid, l'OTAN, qui a toujours mis en avant son caractère exclusivement défensif et ses programmes militaires, a déclaré sa responsabilité globale ainsi que l'indivisibilité de la sécurité dans l'espace euro-atlantique et dans la région dite de l'Indo-Pacifique. Alors, autrement dit, la ligne de défense de l'OTAN se déplace maintenant vers les rives occidentales de l'océan Pacifique. Alors, sous les auspices des États-Unis, les mécanismes sont créés pour intervenir dans les questions de sécurité maritime. On veut de garantir les intérêts unilatéraux de l'Occident dans les eaux de la mer de Chine méridionale. Et Joseph Borrell, lui aussi, avait déjà mentionné et promis d'envoyer des forces navales de l'Union européenne dans cette région, donc en Indo-Pacifique. Et il n'est pas caché que le but, c'est même l'évidence elle-même, de ces stratégies en Indo-Pacifique est de contenir la Chine et d'isoler la Russie. Alors, comment expliquez-vous cette tendance et que reste-t-il du concept du multilatéralisme efficace dans la région Asie-Pacifique et dans toutes les autres régions du monde? On peut se poser la même question. Parce que l'OTAN, s'il décide d'étendre son secteur de compétences jusqu'en Indo, à la région Indo-Pacifique, pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas l'Amérique latine après?
Bien sûr. Il y a deux aspects, à mon avis. L'aspect qui est plus général et l'aspect qui est plus concret, qui est relatif à cette zone Indo-Pacifique. En ce qui concerne l'aspect plus général, il est vrai, on vient de parler de cette prise d'otage, de ce récupérage de l'ONU et de ses structures par les élites globalistes après la chute de l'Union soviétique. Et il est vrai absolument que l'OTAN a essayé d'utiliser l'ONU pour depuis 30 ans à peu près pour créer ces mécanismes en quelque sorte légitimant l'action de l'OTAN dans le monde entier. Je me souviens, c'était aux années 90, j'étais parmi une délégation russe, on était au bureau de l'OTAN à Bruxelles et monsieur, je sais pas qui, un grand officier de l'OTAN nous expliquait que voilà, c'est génial, l'ONU coopère avec l'OTAN et maintenant l'ONU décide, l'OTAN bombarde et tout va bien. J'ai posé les questions, excusez-moi, monsieur, mais est-ce qu'il existe un accord, un traité international qui permet cela? Quel est le cadre juridique de cette action?
Absolument.
Pas de réponse. Donc, c'était aussi une tentative de récupérage, parfois plutôt communicationnelle que réelle, parce que même, par exemple, la présence de la Russie au Conseil de la sécurité de l'ONU et de la Chine, notamment, évidemment, bloque cette possibilité d'utiliser l'OTAN par l'ONU. Mais il y a la tentative, et on sent cette tentative dans le discours. Pour l'instant, on n'est pas encore là, mais l'Occident veut évidemment utiliser l'ONU comme une structure qui va légitimer
l'intervention de l'OTAN.
Tout à fait, légitimer l'intervention de l'OTAN. En ce qui concerne la zone Indo-Pacifique, notamment la Chine, c'est vrai que la situation de la Chine est aussi compliquée. D'une part, la Chine, actuellement, c'est un grand rival, un grand adversaire du monde occidental. On est d'accord là-dessus, et voilà, on sent ça dans le discours occidental. D'autre part, il ne faut pas oublier que la globalisation a eu lieu à cause de cette répartition du travail dans le cadre mondial, Et la Chine est absolument était nécessaire, reste nécessaire pour la globalisation économique. Ce qui a permis à l'Occident de se déclarer comme des zones post-industrielles, de créer ce mythe de l'économie post-industrielle, ce qui est faux parce qu'on produit toujours des choses industrielles, même les smartphones, c'est un objet industriel. Mais évidemment, c'est plus produit aux États-Unis ou en Europe, c'est produit en ailleurs. Chine ou ailleurs, ou en Asie. Et donc, sur ce plan, l'Occident a besoin de la Chine aussi pour continuer cette globalisation économique. Et donc, ces élites sont divisées. On a vu ça entre, par exemple, Trump et Biden. Trump qui voulait faire revenir l'économie et l'industrie vers les États-Unis. Il était plus agressif par rapport à la Chine. Biden, tout de suite, a calmé un petit peu la situation parce qu'il ne veut pas cette réindustrialisation. Ces élites veulent pas cette réindustrialisation des États-Unis et donc ils ont besoin de la Chine. Donc la situation est plus compliquée. Parfois, Borrell, concrètement, il peut incarner un groupe qui est plus agressif par rapport à la Chine, mais il y a tout de suite un autre groupe. Donc sur ce plan, à mon sens, l'on voit les risques, évidemment, du dérapage dans cette zone, mais peut-être pour tout ce qui concerne les actions de l'OTAN, c'est encore plus dangereux sur les continents où il n'y a pas de ces forces telles que la Chine.
C'est la Chine ou la Russie.
Ou la Russie, parce que l'Asie, sur ce plan, est plus protégée, bizarrement.
Voilà. Bien. Alors, étant donné cette situation, partant par exemple de l'Afrique, qui a subi de plein fouet, justement, cette prise en otage de ces institutions internationales, notamment économiques, le FMI, la Banque mondiale, qui ont servi de moyen de mise en faillite de la majorité de ces pays, à tel point que les gens là-bas ironisent sur le FMI comme le fonds de la misère internationale, pas le fonds monétaire international. Alors, ainsi donc apparaît une question légitime. À quoi servent encore les institutions internationales? Et peut-on encore parler de droit international et du multilatéralisme tel que ces institutions ont été pensées par les pères fondateurs?
Oui, absolument. La question est absolument légitime. Il faut poser cette question. C'est absolument nécessaire parce que sinon, on ne va pas arriver à l'amélioration de la situation. Il faut peut-être partir de l'idée que cette mondialisation, globalisation, peu importe, est absolument opposée à l'idée du droit international. Le droit international repose sur les États souverains, les États qui n'ont pas de supérieur, qui sont souverains et donc chaque exerce le pouvoir sur son territoire, et donc ils coopèrent pour régler certains problèmes en respectant leur souveraineté. C'est l'idée de base. Et ce qui fait naître le droit international comme un droit assez spécial, qui n'a pas de force contraignante, parce qu'on ne peut pas contraindre l'État, sauf une intervention militaire qui n'est pas prévu par le droit international, normalement. Donc, c'est l'idée. La globalisation veut casser la souveraineté. Donc, et c'est pour cette raison-là qu'en même temps, et automatiquement, conceptuellement, la globalisation casse le droit international. En transformant, et on sait, ça a été dit plusieurs fois, en transformant ça en ces fameuses règles...
La règle du jeu.
Voilà, la règle du jeu, la règle de gouvernance globale, ce système qui est posé sur des règles. Même on voit ça au niveau de la phraséologie.
Ouais, ouais.
C'est exactement ça. Il n'y a plus de droit international, il y a un autre système, le système de la gouvernance globale. Les règles sont globales, elles sont obligatoires, et les États, ils doivent exécuter ces règles comme des régions d'un empire, si vous voulez, comme ça. ce ne sont plus les États souverains, sont les périphéries de l'Empire, les colonies, on peut dire comme ça aussi, de cet Empire qui doivent exécuter. Ça correspond à leurs intérêts, ça ne correspond pas, mais la décision a été prise, il faut l'exécuter. Donc, en quelque sorte, avec cet essor de la globalisation, même conceptuellement, l'on voit que le droit international a subi beaucoup d'attaques, même au niveau des concepts. Je connais des institutions, par exemple, scientifiques en Occident, extrêmement réputées, en Allemagne, par exemple, qui portaient le titre, par exemple, Max Planck Institut pour le droit pénal international et le droit étranger. En 2020, le titre qui existait depuis presque un siècle a sauté, et maintenant c'est remplacé par quelque chose, l'Institut du droit, des règles, de la sécurité, donc dans le sens globaliste. Mmh. Le droit international est sorti de l'appellation de cet institut. C'est très significatif, cela veut dire, donc pour restaurer le droit international, il ne faut pas oublier le droit international qui est sous les menaces. Il faut restaurer la santé des États qui peuvent négocier, qui peuvent décider, qui sont souverains pour faire développer ce droit international. C'est absolument indispensable conceptuellement. Donc, sans cette souveraineté, on va toujours voir sauter tous les concepts du droit international, et notamment, on va voir sauter les institutions internationales en tant qu'internationales, et on va voir des quasi-ministères de cette globalisation, de cette gouvernance globale, qui vont donner des ordres aux États, comment faire, comment agir, etc., etc.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Leonid Vitalievich Golovko, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Leonid Vitalievich Golovko, professeur de droit à l'Université d'État de Moscou, directeur du Centre de procédure pénale et de justice. Leonid Vitalievich, je vous resalue à nouveau, et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Merci beaucoup à vous, merci.
Bien, alors maintenant, passons à des choses très actuelles par rapport à ce qui se passe depuis l'opération spéciale russe en Ukraine. Alors, en avril, l'avril de cette année, le 9 avril exactement, a marqué le 20e anniversaire de la chute de la capitale irakienne Bagdad. Donc, résultat de la guerre lancée par les États-Unis de George Bush et son administration néoconservatrice et le Royaume-Uni de Tony Blair, dont les 10 années d'occupation brutale de l'Irak par les troupes américaines et leurs alliés, plus d'un million d'Irakiens ont été tués. Et le mois de mars aussi de cette année marque d'autres anniversaires odieux d'agressions militaires américaines et occidentales illégales qui, honteusement, se sont heurtées au même silence et à la même indifférence occidentale. Donc, nous avons le 19 mars, par exemple, a marqué le bombardement par l'OTAN de la Libye en 2011 sous le prétexte cynique de protection humanitaire. Et en outrepassant la résolution du Conseil de sécurité, tout comme en Irak. Et puis le 24 mars, aussi, 99, l'OTAN, dirigée par les États-Unis, a unilatéralement bombardé durant 78 jours l'ex-Yougoslavie. Et la campagne de bombardement a été menée sur la base aussi d'une action unilatérale de Washington et de ses alliés. Bien. Alors maintenant, comment analysez-vous ces événements majeurs de la fin du siècle dernier? Parce que il y a quand même, ce sont des actions extrêmement graves qui ont commencé à faire basculer le monde entier dans le chaos et sans l'accord de l'ONU, sans l'accord du Conseil de sécurité. Donc, quels sont leurs objectifs? Est-ce que c'était à dessein pour arriver à une situation, de désordre mondial, ou ce n'était pas bien calculé? On s'est trompé, comme disent certains. On a cumulé beaucoup d'erreurs et ça a mené à la situation actuelle. Et Que peut-on dire sur le fonctionnement des institutions et du droit international dans ces cas ?
À mon avis, ces événements ont été très bien calculés et ce n'était pas du tout un hasard. À mon avis, on arrive ici au cas concret. Pendant la première partie de notre émission, on a évoqué certains problèmes institutionnels liés à la globalisation, à cette tentative de la domination globale, etc. etc. Et maintenant, avec ces événements historiques très importants que vous venez d'évoquer, on voit le concret de cette transformation institutionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? À ce moment-là, tout bascule au moment de la fin de l'Union soviétique.
La partie officielle de cette assemblée est terminée. Quelles étaient vos attentes ? Quelles sont maintenant vos impressions ?
Le système
êtes-vous satisfait des résultats de
qui existait depuis la Deuxième Guerre mondiale disparaît.
Avant tout, je voudrais dire que je suis très heureux au-delà de toute imagination. En raison de la participation de nos pays membres et bien sûr de nos affiliés qui sont venus du monde entier et de l'attention que les gens ont portée tout au long des sessions de l'Assemblée.
Je suis également heureux des commentaires positifs que j'ai reçus de nos invités. En quelque sorte, le message lancé était le suivant. Soit
la réception était bonne, tout était parfait.
Soit
la famille, la communauté de l'Union africaine de radiodiffusion ne cesse de s'agrandir. Vous avez donc ici, à cet événement, des représentants de différents continents et même de différents pays de l'Europe, la Chine et bien sûr la Russie. S'agit-il donc, à votre avis, d'une tendance positive et devrait
sont des États différents, culturellement, politiquement, historiquement, c'est tout à fait normal.
Oui, je pense que c'est une tendance positive, parce que le monde est devenu un village global, et que nous ne pouvons pas être isolés du reste du monde.
Et en même temps,
et je pense que le fait de se réunir en grand nombre comme cela, en provenance de tous les continents du monde, est un plus pour l'Union africaine de radiodiffusion. Et c'est quelque chose qui devrait être encouragé, parce qu'il y a une pollinisation croisée des idées, et la façon dont les gens partagent leurs propres pensées et le développement je pense que c'est une idée bienvenue. J'aimerais encourager l'Union africaine de radiodiffusion à poursuivre dans cette voie.
Et c'est pour ça, et toutes ces guerres et toutes ces révolutions en couleur, pour moi, entre les deux, il y a un lien direct. Ce sont les mêmes événements, en quelque sorte, les deux formes du même phénomène.
C'est ce que les Américains appellent dans leur nouvelle doctrine la guerre hybride.
Ils ont commencé en quelque sorte le nettoyage du monde. On peut dire comme ça. Ils ont commencé à nettoyer tous les régimes qui ne correspondent pas à leurs vœux, qui ne correspondent pas à cette globalisation imaginée à ce moment-là, et qui imaginée peut-être avant encore la chute de l'Union soviétique, mais menée concrètement et qui devait aboutir après la chute de l'Union soviétique. Et donc, ils ont commencé d'agir dans les différents coins du monde. Et il est clair aussi que tous ces événements n'avaient rien à voir ni avec les institutions internationales, donc leur avis n'existait plus. À ce moment-là, il y avait le récupérage de ces organismes internationaux et n'avait rien à voir avec le droit international. Le droit international, en quelque sorte, a perdu son sens parce que le droit international existe, comme j'ai déjà dit, pour les États souverains. Et les États-Unis, à ce moment-là, n'acceptaient pas la souveraineté de la Yougoslavie, de l'Irak, de la Syrie derrière, etc. Et c'est seulement le problème a commencé d'arriver au moment quand la Russie notamment a commencé d'intervenir de façon très légitime en Syrie par exemple. Et là ils ont commencé à avoir certaines difficultés. Donc en quelque sorte cette époque lorsqu'ils avaient la main absolument on peut dire libre, les États-Unis duraient du 91, le début de la guerre en Yougoslavie et jusqu'à à peu près la guerre en Libye. Jusqu'à 2015 peut-être, parce qu'à ce moment-là, en Syrie, ça a commencé déjà d'être beaucoup plus compliqué pour eux. Donc cette période montre que la globalisation, quand on nous dit aussi que, écoutez, la globalisation c'est génial, parce que quand il y a les États souverains, il y a toujours des guerres, il y a des rivalités, mais ces exemples montrent que la globalisation, cette tentative apporte beaucoup plus de guerres, apporte beaucoup plus du sang.
D'ailleurs, même sur le plan économique, il y a des études actuellement qui montrent qu'à chaque fois il y a eu le protectionnisme, il y a eu la paix, et des négociations entre pays. Mais c'est quand il n'y avait pas de protectionnisme que la guerre débarquait à chaque fois.
Absolument, bien sûr. Donc c'est un faux concept. C'est aussi pour manipuler un peu l'opinion publique. On voit cette décennie de la globalisation, on dit parfois avec humour heureuse ou galopante, a apporté énormément du sang, a apporté énormément de guerres. C'est clair aussi, en Irak, en Yougoslavie, etc., etc.
D'accord. Alors, le 20e anniversaire donc, de la guerre américano-britannique contre l'Irak devrait être l'occasion, normalement, de traduire devant la Cour pénale internationale, la CPI, hein, pour crime de guerre, aux normes, je me permets de lire, aux normes des juristes, je le reprends sur des juristes, aux normes de Nuremberg, les personnalités politiques et militaires américaines et britanniques, comme George Bush, Tony Blair et l'actuel président américain Joe Biden, pour son rôle crucial de sénateur senior donc, à l'époque pour autoriser la guerre, mais également les médias, tels que le New York Times, le Washington Post, qui ont diffusé donc, en masse les mensonges en faveur de la guerre. Parce que il y a des preuves maintenant documentées, même des déclarations, des aveux de ceux qui ont déclaré la guerre. Donc George Bush, Colin Powell, qui ont dit que en fait nous avons fait la guerre sur la base de mensonges. Il y a eu une défaillance du service de renseignement, des services de renseignement, et ainsi de suite. Et donc les millions, on s'excuse même pas, ils se sont même pas excusés. Bien. Alors moi ma question. Pourquoi rien n'est fait dans ce sens, pour justement les traduire en justice? Et puis, la question que se pose tout le monde actuellement, qu'est-ce qui garantit l'impunité aux Occidentaux quant à tous les crimes commis ces dernières années? Et puis, est-ce normal que cette fameuse CPI lance un laconique mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine tout en ne soufflant aucun mot sur les crimes avérés et documentés de ses homologues occidentaux. Et pourtant, quand on regarde d'un point de vue du droit international, la Russie est intervenue en Ukraine conformément au droit international. Parce qu'elle a reconnu d'abord l'indépendance des républiques Lugansk et Donetsk, et sur la base de cette reconnaissance que les dirigeants de ces deux républiques ont demandé l'aide à la Russie. Donc, c'est conforme au droit international, il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais il est clair que... et il faut partir peut-être de l'idée que la CPI, la Cour pénale internationale, c'est un tribunal qui n'est pas impartial et qui n'est pas indépendant. C'est un instrument créé par les mêmes élites occidentales au moment de la chute de l'Union soviétique, le même moment toujours de cette globalisation galopante, pour créer pas seulement l'institution qui légifère au niveau global, mais également les tribunaux au niveau global, et pour juger ceux qui s'opposent en quelque sorte à leur régime, à leur domination. N'étant ni impartial ni indépendant, cette Cour pénale internationale ne peut en aucun cas juger les vrais criminels, notamment les criminels occidentaux, parfois, qui ont commis beaucoup de crimes.
Mais par rapport à ça, donc, pour ironiser un peu, on se dit, mais en attendant que le James Bond courageux qui va venir mettre les menottes à M. Poutine au sein du Kremlin arrive, en attendant que celui-là arrive, c'est quand même les Africains qui souffrent de cette institution.
Bien sûr.
Il y a des chefs d'État qui ont été jugés. Non,
par bien cette sûr, bien sûr. C'est le vrai problème. Donc, je peux dire une chose, que cette Cour pénale internationale a été imaginée pour cette globalisation, pour cette domination globale des Occidentaux. Il est orienté contre tous les pays qui sont souverains et qui essaient de se défendre contre cette domination. Et évidemment, pour ce qui montre aussi côté complètement injuste de cette institution, qu'ils agissent où ils peuvent, à leur sens, agir, c'est-à-dire les États qui sont peut-être affaiblis parfois politiquement, qui peuvent pas se défendre, qui n'ont pas d'armes nucléaires, etc., etc., ils lancent ces poursuites. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus communicationnel par rapport au président Poutine, parce qu'ils n'ont pas de force pour arrêter, heureusement, le président Poutine. Mais parfois, ils peuvent Ouais, intervenir avec beaucoup,
Gbagbo, par exemple,
tout à fait, beaucoup plus de facilité sur le continent, par exemple, africain.
Bachir, le président Bachir.
Exactement. Et c'est pour cette raison-là que pour les États africains, cette Cour pénale internationale est beaucoup plus dangereuse que pour d'autres États. Je félicite la décision du Burundi, par exemple, de sortir de sa compétence. Je félicite les Philippines aussi. Évidemment, c'est en quelque sorte la Cour qui est orientée vers la souveraineté en tant que tel des États, et notamment, il est utilisé comme une arme extrêmement, en quelque sorte, dangereuse en Afrique. Donc, c'est pas dans l'intérêt des États africains reconnaître la compétence de cette Cour. C'est extrêmement dangereux pour eux, pour leur souveraineté et pour leur indépendance, à mon avis, ce qu'on peut dire. Donc, il faut rien attendre de cette institution. Cette institution est absolument occidentale, absolument idéologique, en quelque sorte, avec le même, on peut avoir le même espoir, penser que la Cour suprême des États-Unis va un jour amener en prison, par exemple, les grands criminels américains. C'est naïf. C'est pareil. Il n'y a aucune différence, en vrai dire.
Mais il y a déjà cette question-là d'extraterritorialité du droit américain dans le domaine économique.
En quelque sorte, je voulais tout simplement dire qu'en quelque sorte, la Cour pénale internationale fait partie du monde occidental dans les mêmes mesures que, par exemple, la Cour suprême des États-Unis ou la Cour suprême britannique. C'est une institution occidentale et pro-occidentale. Tout le reste sont des petits masques, la petite communication, la petite com autour, et pas plus que ça. Donc, il ne faut pas attendre ça. Et c'est normal parce qu'en principe, actuellement, vu que les États souverains ne peuvent pas avoir supérieur par rapport à eux, c'est le concept de la souveraineté, il ne peut pas exister la justice internationale qui peut forcer un État. C'est en dehors, ça contredit l'idée de la souveraineté. Donc, parce que même l'idée de créer cette Cour, c'est une idée très audacieuse, et l'idée qui avait comme essence aussi cette idée de battre la souveraineté étatique, de combattre la souveraineté étatique. Donc, en quelque sorte, ça, il faut tenir compte de ça. Et surtout, jamais être peut-être assez, si on peut dire comme ça, naïf pour attendre quelque chose de ce tribunal. Moi, j'attends rien. Je sais très bien que s'il y a des crimes, peut-être, évidemment, il y a des crimes commis par les Occidentaux, il est impossible d'attendre des instruments également occidentaux, la vraie justice.
C'est impossible.
Voilà, entre les guillemets, la vraie justice sans guillemets. On ne peut pas attendre de cette justice qui est une fausse justice, qui est la justice en guillemets. Donc, entre les guillemets. Donc, en quelque sorte, il faut réaliser cet aspect. Et pour moi, il n'y a rien d'étonnant que la Cour pénale internationale n'attaque pas les pays occidentaux. Bon, d'accord, les États-Unis n'ont pas reconnu sa compétence, mais les pays européens, par exemple, etc., ils les ont reconnus. Il y a toutes les possibilités juridiques, mais il ne va jamais faire cela. Et en même temps, en contrepartie, il va attaquer les pays africains, il va lancer les mandats d'arrêt contre le président Poutine, contre d'autres dirigeants qui sont considérés comme dangereux.
Même en Libye.
Même en Libye,
il y a des preuves maintenant.
Mais bien sûr. Que... Mais ouais, qui contre qui ça a été lancé? Contre le fils de Kadhafi. Et pas contre ceux qui bombardaient et qui décidaient de bombarder
Sarkozy,
la Libye.
Par exemple.
Contre la victime, en quelque sorte. Pas contre le criminel. C'est aussi la réalité des choses.
Alors, bien. Alors, le 1er décembre 2008, justement, pour continuer sur le même élan, le président George Bush a reconnu l'erreur américaine, donc, soi-disant l'erreur américaine, dans un entretien sur la chaîne de télévision ABC News. Je le cite, « Le plus grand regret de toute cette présidence consistera dans la défaillance du renseignement en Irak. » Donc, là, il reconnaît implicitement qu'il a déclenché une guerre sur la base d'un renseignement faux ou défaillant. Donc, et puis, en 2013, dans un entretien à l'Obs, le secrétaire d'État, Colin Powell, le général Colin Powell, donc, a aussi commenté les faits. Tout le monde se rappelle son discours à l'ONU avec la fiole de jus de pomme. Où il disait que c'était de l'anthrax, Voilà. Alors, je le cite, « Depuis que j'ai découvert un grand nombre d'informations que l'on m'avait fournies étaient inexactes, je ne cesse de me demander qu'aurais-je dû faire pour éviter cela ?» Et il s'est justifié, ce n'était pas un mensonge délibéré de ma part, je croyais à ce que je disais. Et puis, il regrette, c'est l'un des points noirs de ma carrière. Mais aucune pensée pour les millions de morts. Aucune pensée, rien, aucun mot. Donc, et en 2015, il y a le rapport, il est tout à fait accessible à tous ceux qui veulent le lire, qui a été déclassifié des services d'enseignement américains, utilisé donc par l'administration Bush, et qui dit que, en fait, les renseignements ont fait son travail, ils ont dit à l'administration américaine, il n'y avait ni arme de destruction massive, ni de lien avéré entre Al-Qaïda et l'Irak ou Saddam Hussein pour déclencher la guerre. Et que tout ça a été traficoté après par un service parallèle créé par Donald Rumsfeld, tout le monde le sait. Alors, maintenant que tout ça est clair, alors en quoi l'opération militaire spéciale russe en Ukraine est-elle plus condamnable que les guerres menées par les États-Unis et leurs alliés dans plusieurs pays arabes, européens et asiatiques? Le Kosovo aussi, l'ex-Yougoslavie aussi. Et quid des violations des droits de l'homme quasi quotidiennes en Palestine par l'armée israélienne?
Tout à fait. Là, on voit ces fameux doubles critères, doubles standards qui sont devenus insupportables. Et je vais évoquer deux aspects. Tout d'abord, c'est aussi le grand style des Américains. Lorsqu'ils reconnaissent leurs erreurs du passé, qui sont plus d'actualité, par contre, quand le boulot est fait, après, ils reconnaissent quelque chose, et sans aucune conséquence. C'est aussi pour manipuler, en quelque sorte, l'opinion publique, je pense, parce que chaque fois, le même discours, regardait, oui, il y avait une petite erreur, mais notre administration a changé, on a élu...
Il faut oublier cette offense, comme ils ont dit au sommet de G7
absolument.
Pour les bombes atomiques sur le Japon.
Absolument, tout est fait, voilà, l'administration a changé, on a élu un nouveau président.
Oubliez ça, tournons la page
de l'administration, c'est exactement chaque fois, c'est la même chose. Et en plus, en même temps, lorsque Colin Powell reconnaît quelque chose pour l'Irak, c'est ces jours-ci, les États-Unis bombardent la Libye ou la Syrie. Mmh. Ça ne dérange pas, parce que ça, c'est encore d'actualité pour eux. Ça, on ne va pas encore reconnaître. On reconnaît quelque chose où la page pour eux est tournée. Donc, c'est leur style. En ce qui concerne, évidemment, c'est même pas double standard, la situation de la Russie et des États-Unis, la situation en Ukraine, l'opération spéciale et tous ces massacres commis en Irak, en Libye ou en Syrie, évidemment, ça n'a rien à voir. La Russie, se défend contre cette agression de l'OTAN. L'OTAN a commencé aller vers les frontières russes depuis la chute de l'Union soviétique, malgré toutes ses promesses, en mentant ouvertement. L'OTAN a transformé l'Ukraine en zone absolument insupportable, militairement orientée contre la Russie, ce qui présente pour la Russie un intérêt vital.
Même culturellement.
Donc la Russie se défend, et la Russie se défend, quoi qu'on dise, sur son sol historique, parce que toutes ces régions de l'Ukraine pour l'Occident, ou maintenant certaines qui sont déjà russes, juridiquement russes, c'est quand même les terres historiques russes, où habitent les Russes, pas seulement les Russes, au fond, les Russes et la Russie. Pour des raisons historiques, cette frontière a été mise en place, c'était une frontière administrative à l'époque, et la Russie, évidemment, est responsable pour ces peuples qui ont été bombardés depuis 2014. Donc la Russie se défend institutionnellement et militairement contre l'agression et défend ses populations, les populations russes. En même temps, les États-Unis ne se défendent pas. Ils attaquent, ils agressent en Irak ou en Libye. C'est rien à voir avec leur sécurité nationale, parce qu'il y a des milliers de kilomètres.
Bon, l'Irak, il y a 11 000
kilomètres. Au bout de la planète. Il n'y a aucun risque militaire pour eux. Il n'y a aucun risque vital pour eux. Donc, c'est une agression. Ce n'est pas la défense, c'est une agression. Donc, et je vois, là, pour moi, il n'y a rien à voir. Même en même temps, vous avez absolument raison. Tous ces organismes internationaux complètement pris en otage, récupéré par les États-Unis, par le système globaliste, essaie de condamner la Russie, et ne disent rien contre les États-Unis, ou disent quelque chose quand les États-Unis permettent, dans le passé, voilà, il y a 20 ans, on a commis une petite erreur, désolé, bon... Donc, malheureusement, c'est ça, ce monde qu'on voit, et notamment sur ce plan, il est malheureusement n'est pas juste, et il ne peut pas être juste dans le contexte de cette, je répète une énième fois, de cette globalisation, mondialisation, qui est en réalité la volonté de construire un nouvel empire.
Et donc, une dernière question, monsieur Golovko. Que pensez-vous ? Est-ce que valent encore ces tribunaux ? Et puis, peut-on avancer qu'est-ce qu'on peut avancer comme piste de réflexion pour remettre de l'ordre dans la gestion des affaires du monde ? Et parce que, visiblement, ces structures du mondialisme, notamment depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, c'est fini. On pense que c'est clair qu'ils sont en phase de désintégration. Et ce n'est pas la Russie ni la Chine qui les ont achevés, c'est les Occidentaux eux-mêmes. Parce qu'à un certain moment, l'organisation qu'ils ont mis en place ne convenait pas leurs intérêts. Comme par exemple les capitaux. Mondialisation financière, mondialisation économique, et après, parce qu'on veut punir quelqu'un, on prend en otage toutes les réserves de sa banque centrale.
Tout à fait, oui, en répondant à votre question, qu'est-ce qu'ils valent encore ces institutions, ces tribunaux ? Pas grand-chose, voire rien. Ce sont des instruments occidentaux, et la meilleure chose actuellement pour tous les pays, c'est d'ignorer ces tribunaux, c'est d'ignorer leurs décisions, sortir quand on peut, comme la Russie ou le Burundi, je dis, comme les Philippines, je répète, sortir de leurs compétences, ignorer, et en quelque sorte essayer de montrer leur désaccord de ces États par rapport à ces institutions. Donc, c'est le seul, à mon avis, comportement qui correspond aux intérêts des États, c'est abandonner et ignorer. En ce qui concerne l'avenir, on verra ensuite, avec les États réellement qui vont reprendre leur souveraineté, qui vont atteindre leur souveraineté, qui vont se respecter, qui vont se sentir égaux. On peut penser peut-être dans l'avenir de la création des vrais tribunaux, pas de ceci, mais des vrais tribunaux qui peuvent notamment
arbitrer
un jour juger ces criminels, notamment occidentaux, pour ces guerres qui ont eu lieu déjà. Et parce que n'oublions pas que les crimes contre l'humanité, et notamment les crimes commis par les occidentaux, n'ont pas de prescription. Non, pas de prescription. Et donc, mais pour cela, il faut quand même un autre monde, plus juste, vraiment un monde multipolaire qui pourra...
Donc, si j'ai bien compris, toutes les institutions actuelles...
Ils ne peuvent pas être transformées.
Du moins depuis la fin de l'Union soviétique, elles sont sujettes au rapport de force géopolitique.
Absolument, militaire. Absolument.
Et tout c'est, ce qui est c'est la loi et les règles du plus fort.
Du plus fort, exactement. Et c'est surtout ces institutions qui ont été créées après la fin de l'Union soviétique, qui n'ont pas même du passé historique positif comme l'ONU, quoi qu'on dise. Bon, quand même, il y a ce passé historique. C'est pour ça, c'est dangereux de casser l'ONU. Mais tout le reste, ça doit être absolument être abandonné, tous ces cours pénales internationales, etc. Et après, dans un monde plus juste, dans un monde qu'on peut rêver peut-être, mais j'espère qu'il viendra, on peut penser aux vraies juridictions qui seront impartiales, qui seront indépendantes et qui peuvent juger des vrais criminels et pas servir des instruments, des armes dans la main de ceux qui veulent dominer.
Donc pour l'instant... La solution, c'est les principes de Westphalie, des accords de Westphalie.
Absolument, absolument. Pour l'instant, c'est la meilleure solution, à mon avis, historiquement aussi qui a prouvé son efficacité, avec tous les problèmes qui ont eu lieu, mais quand même, c'est, vous savez, dans le monde, parfois, c'est le meilleur parmi le pire, mais en tout cas, c'est
comme qui... m'a dit dernièrement le général de Lavarde, quand on joue... Non, c'était un autre monsieur qui me dit quand on joue aux cartes, on joue les cartes qu'on a entre les mains, pas les cartes...
Oui, qu'on peut imaginer. Tout à fait.
Donc on peut tout imaginer, mais il faut quand même revenir...
Mais concrètement, en revenant sur Terre, voilà, il faut se baser sur la solidarité étatique et peut-être sur les justices nationales, surtout en rêvant peut-être d'un monde plus juste, mais restant pragmatique.
D'accord. Ben, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Leonid Vitalievitch, je vous remercie pour cet entretien passionnant.
Merci à vous.
Et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à poser cette grave problématique et ses conséquences pour que tout le monde ait un tant soit peu d'éléments nécessaires pour réfléchir sur la question et voir ce qui l'arrange de ce qui ne l'arrange pas. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Leonid Vitalievitch Golovko, professeur de droit à l'Université d'État de Moscou, directeur du Centre de procédure pénale et de justice. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.